Eh bien, bienvenue si vous débarquez dans ce café Grégo qui est toujours ouvert. On va se poser tranquillement ensemble. Et comme je vous l'ai dit, on en a parlé depuis ce matin, 7h. C'est la chronique littéraire qu'on vous propose désormais tous les jeudis à partir de 8h30 après la funk, en compagnie de Mélinda, bien sûr. Bonjour Mélinda.
Bonjour Greg.
Comment vas-tu ?
La forme et toi ?
Ah oui, la forme. Tu parles fort, dis donc.
Ouais, ce matin, je sais pas, on s'est mis dans le mood du livre sur la route.
Voilà, aujourd'hui tu vas nous présenter ce livre grand classique apparemment de la littérature. Voilà, de Jack Kerouac.
Oui, Jack.
Jack, ouais. Alors qu'il s'appelle Jean-Louis le gars, donc il va pas nous la faire.
Oui, mais c'est un Français du Canada, tu vois, donc il est déjà plus américain que nous.
Oui, c'est vrai, en tout cas du continent.
Ouais, absolument.
Sur la route, un sacré livre, un sacré roadbook.
Roadbook, ouais. Pas mal, on fait des jeux de mots. Ouais. Il est en forme ce matin, Greg.
T'as vu, je suis très en forme. Un petit roadbook, donc un livre sorti, je ne sais même pas en quelle année d'ailleurs, mais c'est un gros classique hein, quand même. Mais tu vas nous en parler un peu mieux que moi, de toute façon, puisque c'est pour ça que tu es avec nous ce matin. Donc, Jack Kerouac avec son livre « Sur la route ». Je te laisse un peu nous parler de tout ça.
Et oui, et ce matin, c'est donc « Sur la route » que je vais vous présenter. Mais pour introduire ce roman indéfinissable, eh bien, je vais commencer par vous lire une citation, une des citations les plus connues de l'auteur. « Les seuls gens vrais, pour moi, sont les fous, ceux qui sont fous d'envie de vivre, fous d'envie de parler, d'être sauvés, fous de désir pour tout à la fois, ceux qui ne baillent jamais et qui ne disent jamais de banalité. » Mais qui brûlent comme des feux d'artifice extraordinaires, qui explosent comme des araignées dans les étoiles. Et en leur centre, on peut voir une lueur bleue qui éclate et tout le monde fait « Waouh !»
Yeah.
Alors, si cette citation, elle vous a parlé, que vous aussi, vous faites partie de cette espèce humaine hein, qui a besoin de coller son visage contre la vitre des sensations, que vous rêvez de prendre votre voiture, votre envol, de partir à la découverte du pays, du monde, sachez qu'il y a un homme qui a été comme vous au siècle dernier. Et cet homme s'appelait donc Jack Kerouac. Et en 1947, il a entrepris un grand voyage à travers les États-Unis en voiture et puis en autostop avec $50 en poche. Voilà. Et comment vous dire qu'avec $50, on ne fait pas tout le pays. Hein. Donc très vite, il est arrivé à sec et il a dû se débrouiller par lui-même. Et pendant ce voyage, il a rencontré des personnages, on va dire, assez insaisissables, comme on en rencontre quand on prend le risque de partir à l'aventure. Et parmi eux, il a rencontré un homme qui s'appelle Dean Moriarty dans son livre. Et cet homme a véritablement existé. Il s'appelait Neil Cassady. Et Neil Cassady va profondément inspirer Jack Kerouac parce que c'est un homme, un personnage hein, lui-même. Il se décrivait comme étant un personnage complètement excentrique puisque c'est quelqu'un qui est né dans une voiture, donc déjà sur la route, et qui n'a jamais eu peur en fait, de repartir à l'improviste. C'était un homme qui parlait vite, qui parlait fort, qui était dans l'excès. Et avec Jacques, du coup, quand ils vont explorer les États-Unis, ça va être un voyage rempli de fêtes, d'alcool, de sexe, de drogue, mais aussi de spiritualité. Il y a comme ça une espèce de quête dans l'errance que nous retranscrit l'auteur. Et puis, le débit de ce compagnon de route, le fait qu'il parle très vite, ça va aussi inspirer l'écriture de Sur la route, puisque c'est une écriture qui est vraiment particulière.
Oui, c'est bien de le préciser.
Ouais, c'est une écriture qui est très particulière parce que c'est ce qu'on va appeler l'écriture spontanée. Nous, en France, on avait l'équivalent, c'était le surréalisme. Mais là-bas, en fait, quand Jack Kerouac écrit Sur la route, on se rend compte qu'il n'y a pas de chapitre. Il y a juste comme ça des flots de pensées qui vont s'enchaîner. Et c'est comme ça qu'est née finalement l'écriture du road movie. Donc, Sur la route, finalement, c'est un témoignage de ces années passées aux côtés de Neil Cassady, de ses rencontres, de ses déboires et de ses questionnements existentiels, en fait, qui sont propres à l'audace du voyage.
Puis il y a un contexte, on est dans les années 50 aux États-Unis, on sort de la Seconde Guerre mondiale que eux ils n'ont pas connue sur leur territoire, mais ils ont tout un peu une sensation de toute puissance qui est un peu dans tous les esprits américains. Ils sont en train de se préparer à filer au Vietnam en plus. Et du coup, c'est vraiment le contre-pied le contre-pied de la société américaine un peu bien pensante, bien dans son canapé, et eux, ils décident de, lui, il décide de partir sur la route. Donc, il y a tout ce contexte-là qu'il faut préciser, qui peut aussi être, qui peut un peu nous éclairer sur l'état d'esprit de l'auteur quand il écrit ça, quoi, en pleine année 50, et ce désir, d'être à contresens de la société américaine, de vouloir vivre beaucoup plus de voyages, d'expériences, qu'elles soient de drogue, de sexe, de rencontres, de nuits blanches et compagnie, quoi.
Ouais. Bah, en fait, si tu veux, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que quand Jack Kerouac, il écrit Sur la route en 3 semaines. Tu vois, en 3 semaines, et je crois qu'il a 1400 mots par jour. C'est un délire. Ouais. Par contre, il met 7 ans pour réécrire et donner le livre à un éditeur. Et il faut savoir que lui, avant de prendre la route, il est quand même étudiant à l'université de Columbia à New York, qui est une université très célèbre même aujourd'hui. Et avec ses copains, en fait, ils parlent de littérature, tu vois. Et ensemble, ils vont créer la Beat Generation. Ouais. Du coup, je sais pas pourquoi je rigole, excusez-moi. La Beat Generation et eux, comme tu le dis très bien, ils vont prendre le contre-pied à travers le voyage en fait, de cette société américaine qui est hyper conservatrice. C'est-à-dire que les hommes, justement, ils doivent aller au travail. Les femmes, elles restent à la maison pour s'occuper de l'enfant. Il y a tout le modèle de la virilité qui se met en place. Il y a une idée quand même que pour être une personne fiable, on a un travail, on honore sa famille. Et comme tu l'as bien dit... lui, il prend le contre-pied, il dit « Bah non, en fait, j'ai 25 ans, je vais pas aller vers ça, je prends la route, en fait, je vais découvrir la vie, et surtout, je vais m'enrichir d'aventures pour écrire. » Il y a aussi cette idée de partir pour nourrir un livre, tu vois.
C'est très étonnant. Alors, moi, je l'ai pas lu en entier, quand même, j'avoue, je fais mon mea culpa, je l'ai pas lu en entier, le livre, mais je me suis laissé vite embarquer par cette écriture spontanée dont tu parlais, où vraiment, t'as pas de pause, quoi. En fait, tu peux même pas te poser, pas de paragraphe, pas de chapitre. Ça continue tout le temps, ça continue, c'est vraiment, t'es vraiment sur la route avec lui et avec toutes les rencontres qu'il fait, quoi. Ça peut être un gars qui rentre à un moment, qui les prend en stop, c'est fini, ça passe à d'autres personnages. Il y a une quantité de personnages folles dans ce livre, en fait, et tous définis de... Enfin, ils ont tous un caractère différent, ils ont tous une personnalité différente, c'est vraiment un sacré panel de personnages différents qu'il y a dans ce livre. Et pour revenir sur le délire société américaine, là, moi, il y a une phrase qui m'a régalé dans le livre, c'est quand il parle d'un couple d'Américains qui est en voiture, là, et il dit ils avaient cet air de vrais Américains, de se sentir toujours chez eux et de regarder le paysage d'un air soupçonneux.
Ouais.
D'avoir un regard soupçonneux sur tout. Et j'adore cette définition et ce contraste entre ce qu'on disait, la société bien pensante à ce moment-là américaine, et eux, le contre-pied qu'ils vont prendre. J'ai trouvé ça super, super bien dit, quoi.
Ouais. On peut faire un parallèle avec, tu vois, sur la route, ce qui est super avec ce livre, aujourd'hui. Il y a quelques années avant le Covid, ça c'est un mot qu'on a le droit de dire à l'antenne, Covid.
Ouais,
c'est bon.
Tu peux même dire ce que tu veux.
Non mais avant Covid, on avait quand même une vague de personnes, de jeunes personnes qui partaient à l'autre bout du monde.
Ouais.
Quand même, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'était un peu les terres, bénites. Pour les voyageurs. Et il y a eu un nouvel engouement pour sur la route. Et ce que tu disais autour de l'écriture, on rentre dans le récit, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui part et puis qui rentre. Et il y a un mot, en fait, pour décrire ça, c'est le mouvement, tu vois. Et s'il y a beaucoup de jeunes qui le lisent, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a besoin de mouvement, on est désireux de mouvement. Et en ce moment, on est à un moment de l'histoire où on essaie un petit peu de contrecarrer notre possibilité de mouvement, en fait. Et le lire sur la route, c'est récupérer quelque part ça, en fait. C'est se réapproprier ce mouvement-là, je trouve.
C'est voyager en lisant. Vu qu'on était coincé.
Un petit peu, ouais.
Un petit peu. On parle du voyage, tu me parlais de la quête de l'ailleurs, de la spiritualité, tout ça. Quelle part de spiritualité, justement, elle est dégagée par Kerouac dans ce livre ?
Disons que Jacques Kerouac, il naît dans une famille catholique conservatrice. Il va s'émanciper un petit peu de ce caractère conservateur. En revanche, ça reste quelqu'un qui est croyant, tu vois. Et on est quand même aux États-Unis, les gens sont croyants quand même. Donc il y a toujours cette quête de... Je cherche une spiritualité qui serait au-delà de ma religion, tu vois. Donc il y a ce questionnement-là. Et il faut savoir que sur la route, dès que c'est publié, les journalistes ils vont créer un espèce d'engouement phénoménal autour de ce livre. Et vu que Kerouac il parle un petit peu du bouddhisme, etc., il y a énormément de jeunes qui vont s'intéresser à ça. Et il va y avoir un essor, enfin un intérêt grandissant autour de ces religions-là. Et lui, il va pas du tout le supporter en fait. Tu vois, il va pas le supporter. Il va faire une grosse dépression parce que il aura l'impression qu'on lui aura volé son idée de la spiritualité, qu'on en aura fait autre chose et que d'un seul coup, y a une espèce d'idée de spiritualité mainstream qui se met en place. Tu vois, un effet de mode, alors que c'est censé être quelque chose de profond. Aller sur la route, c'est super, mais c'est épuisant aussi. Enfin, faut avoir de la force, faut avoir de l'audace pour le faire. Et lui, il a l'impression qu'on lui vole ça, que ça devient quelque chose, oui, de mainstream. Et il fait une dépression et à la fin, il en meurt. Tu vois. Donc, ouais, la spiritualité pour lui, c'était quelque chose d'important. Et ce questionnement de qu'est-ce qui régit ma vie en fait, pourquoi je suis là au-delà de cadres religieux.
La beat generation, comme tu nous l'as dit, voilà. Et qu'est-ce que c'est et quel impact ça a eu à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire en fait la beat generation? Il y a vraiment un avant-après apparemment.
Oui, alors la beat generation, si vous connaissez encore vos verbes irréguliers. en anglais, peut-être que ça parle aux stagiaires, bit bit bitten. ça m'avait marqué. Ça veut dire mordre, mais dans le jargon, dans l'argotique américain, ça veut dire éprouver. Et le cercle d'amis de Jacques Kerouac à Columbia, il récupère ça pour dire que c'est le sentiment d'être éprouvé, mais joyeusement. Tu
D'accord.
vois. Nous, en France, on avait l'équivalent au 19e siècle, tu sais, avec Victor Hugo, Baudelaire, de la mélancolie. Hugo, il disait, c'était le bonheur d'être triste.
Ouais.
Eux, ils sont éprouvés, mais joyeusement.
Yes, ok. Cette écriture en mouvement là, tu me disais que c'était un style en fait, un style à part entière quoi, qui s'apparentait à quoi tu m'as dit tout à l'heure. Je sais plus, tu m'as fait un parallèle. T'as dit aux États-Unis, c'est l'écriture. Ah non, c'est l'écriture en mouvement. En fait, est-ce que ça c'est lui qui l'a, on va dire. Plus popularisé que les autres, est-ce qu'il y a eu quand même d'autres auteurs qui ont utilisé cette écriture avant lui?
Tu sais, dans l'histoire de la littérature, tu auras toujours des gens qui auront fait des choses, mais qui ne seront pas connus du grand public.
Ouais.
Donc voilà, on va honorer leur mémoire en disant ça. Mais en France, nous, on avait l'équivalent du roman moderne, où tu as des auteurs comme Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, qui sont venus et qui ont dit « Non mais franchement, ça nous embête d'avoir des personnages bien définis, avec une trame bien définie.
Ouais.
Nous, on va tout exploser et il n'y aura que de la narration. Et si parfois on ne comprend pas, ce n'est pas grave parce que le but, c'est aussi de surprendre. Et il y a une idée d'écriture expérimentale. Et il me semble que lorsque Jacques Kerouac, il entreprend sur la route, il y a vraiment ce personnage... personnage de Neil Cassady qui l'inspire vraiment dans son écriture parce que ce gars, il faut se rendre compte que c'est le type de personne que vous rencontrez un petit peu une fois dans votre vie, qui a un charisme hyper éblouissant, qui a une aura et une façon de parler propre à lui-même. Parfois, nous, on se pique entre nous des tics de langage, mais lui, il avait déjà inventé son propre langage. Et Kerouac, en tant qu'auteur, il ne peut pas s'empêcher de récupérer des choses. Et ce débit, il va lui prendre. Alors évidemment, il y aura ce parallèle avec l'écriture en mouvement de la route, mais il y aura vraiment ce débit de parole qui va prendre à Neil Cassady, tu vois. Donc cette rencontre, elle est majeure pour lui. Elle est majeure.
Est-ce que y a pas mal de rencontres donc dans ce livre, il y a des histoires aussi d'amour courtes, des fois éphémères, des fois plus longues, des fois ils y reviennent. Donc il y a des rencontres féminines aussi et du coup quelle la place des femmes dans cette œuvre là, ma chère Melinda, tu m'en avais parlé. On est dans les années 50. Quel regard toi tu portes sur les personnages féminins de ce livre?
Alors, il faut savoir une chose avant tout, c'est que la Beat Generation, c'est qui? C'est Allen Ginsberg, qui est un des amis auteurs que rencontre Kerouac sur la route. C'est Neil Cassady, c'est Jacques lui-même et deux autres auteurs. Et il faut savoir que eux, en fait, ils sont bisexuels et homosexuels. Donc déjà, c'est un groupe d'hommes qui sont amoureux des hommes. Tu vois, Jacques, il fera jamais vraiment son coming out bisexuel. On parlera toujours d'amour platonique avec Neil Cassady parce qu'il était quand même catholique d'éducation, donc il y avait toujours cette espèce de Damoclès, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu vois, concernant cette bisexualité. Mais oui, dans le livre, en tout cas, il y a deux femmes. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a quand même deux qui sont au centre. C'est Marie-Lou et Camille, qui sont les femmes de Neil Cassady, Dean Moriarty, du coup, dans l'œuvre. Et ces femmes, il y a beaucoup de fans, on va dire, du livre, qui disent oui, mais quand même, les femmes, elles ont une place majeure dans le roman, parce qu'elles créent des entrées et des sorties. Mmh. Elles créent les entrées et les sorties de Dean, de Neil, Dean/Neil. Mmh. Et donc, du coup, elles vont apporter, on va dire, aussi toujours ce mouvement dans la narration. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand bien même Marie-Lou, on va dire, elle n'est absolument pas une femme conventionnelle, une jeune femme conventionnelle, parce qu'elle aussi, elle va prendre goût à la fête, à la musique. Ça... Et c'est pour ça qu'on les adore, ces personnages féminins aussi. C'est des gens vivants. Mais elles existent toujours parce qu'un homme existe, en fait. Elles existent toujours en miroir d'un homme. Et elles n'existent jamais en tant que personnage féminin propre, individuel, ouais. Tu vois. Et ça, bon, ça, j'imagine que c'est propre à l'époque, mais quand même, tu vois. C'est vrai que quand on est une jeune femme comme moi qui vient lire sur la route, on va s'identifier au personnage masculin, pas au personnage féminin, parce que elle, en plus, c'est un petit peu, c'est pas les jouets, mais elles dépendent des humeurs de Neil, en fait. Ouais. Donc elles sont soumises finalement à lui, tu vois. Parce que dès qu'il en veut plus, elles retournent chez elles. Et puis dès que lui, il en a marre de la route, il retourne les voir. Donc il y a ces allers-retours constants. Alors non, pour moi, c'est pas des figures émancipatrices, tu vois.
Bon, en même temps, c'était pas l'objet du bouquin peut-être aussi.
C'était pas l'objet, mais on a quand même des personnages forts qui s'émancipent d'un système. Alors elles, peut-être qu'elles auraient pu s'émanciper... du mariage, du couple, tu vois, voilà, cette idée-là. Mais après, j'ai un œil contemporain.
Oui, ouais. C'est ça.
Voilà.
Sur la route de Jack Kerouac, c'est aux éditions, d'ailleurs, vous allez le retrouver n'importe où, en fait. Maintenant, il est édité de partout, c'est un grand classique. Et c'était le petit conseil littéraire de Mélinda.
Mais j'ai une question pour toi.
Ah, dis-moi tout, vas-y.
Bah parce que quand même, il faut savoir que Greg, il a fait l'effort de le lire. Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Mais je te dis, je ne l'ai pas lu en entier.
Oui, mais quand
par
même.
Contre, bah, moi, je suis encore sur la route avec eux, quoi. Tu vois, je me suis arrêté, mais je suis... moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le côté où ça ne s'arrête pas. Et vraiment, j'étais plongé avec eux en train de faire du stop, de nuit comme de jour, rencontrer les personnages et tout. Et j'aime bien cette écriture, donc à la fois en mouvement, et j'aime bien aussi le langage qui n'est pas du tout châtié ou soutenu ou... C'est vraiment du comme on parle, quoi. Il écrit comme on parle, et il est là même à inventer des mots, à sortir des nouvelles expressions et tout. Et donc j'ai bien aimé ça. Et je suis encore en plein dedans, tu vois. Je l'ai pas lu, donc j'ai pas un avis synthétique, si tu veux. Je suis pas arrivé à faire une synthèse de tout le truc. Moi, juste ce que je peux te dire, c'est que voilà, les phrases que j'ai kiffées de tout à l'heure là sur la société américaine de cette époque-là, et puis l'évasion, quoi. La route, à l'arrache, les rencontres, on prend ce qui vient, on jette ce qu'on n'a plus envie, machin. Et c'est vraiment le côté que j'ai apprécié dans ce livre et qui va me donner envie de le continuer, quoi. Donc voilà ce que j'en ai pensé, moi.
Ton avis, il est en route.
Mon avis, il est sur la route. Mais dis donc, hey, si j'avais une petite batterie, j'aurais fait un...
Merci.
Merci beaucoup, Mélinda. On va se retrouver la semaine prochaine.
Oui.
Non, c'est les vacances. La semaine prochaine, on se retrouve à la rentrée.
On se retrouve à la rentrée, tout à fait. Je t'ai regardé avec des yeux, oui, si tu veux, mais ouais. Ok, d'accord. On se retrouve à la rentrée. Merci à vous et merci à toi, Greg.
Merci beaucoup, Mélinda. Les chroniques littéraires par Mélinda, le jeudi à 8h30.